Bonjour, docteur Philippe Desguiral.
Bonjour.
Vous êtes docteur médecin oncologue à l'hôpital de Tarbes. Avec vous, on va parler de cette proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, puisque les députés ont adopté en troisième lecture à l'Assemblée nationale en ce début de semaine, à 295 voix pour et 232 contre, ce texte qui doit repartir au Sénat avant de revenir à l'Assemblée le 15 juillet. Il y a cette fois-ci 63 voix d'écart entre les pour et les contre. Ça s'est un peu réduit, cette histoire-là. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce texte, il n'est pas une évidence? D'ailleurs, s'il a dû passer une troisième fois à l'Assemblée nationale, c'est que l'engagement de ce texte, la proposition de cette loi relative au droit à l'aide active à mourir, n'est pas une évidence pour nos députés et pour nos citoyens.
Je ne sais pas si c'est la principale raison pour laquelle il passe une troisième fois, parce qu'on connaît les tendances politiques, philosophiques et autres entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais en tout cas, il faut bien définir les choses et cet avantage n'est pas si important que ça, comme il est annoncé dans les médias, où on dit même avance confortable, très importante, et au final, on remarque qu'effectivement, y a peu de, c'est pas une immense majorité.
Pour vous, qu'est-ce qui se joue dans ce texte? On sait qu'il y avait deux volets hein, à l'origine, un volet donc sur ce droit à l'aide à mourir et puis un volet sur les soins palliatifs. Alors sur les soins palliatifs, c'est un volet qui fait davantage l'unanimité, on l'a bien vu. En tous les cas, pour ce volet sur l'aide à mourir, c'est quoi au fond qui se joue pour vous, soignants?
Ah ben nous, c'est un changement de paradigme complet, c'est un changement pour les personnes qui travaillent, que ce soit des soignants, des médecins, des bénévoles, qui travaillent qui sont en lien auprès de patients qui sont en fin de vie, c'est un changement complet, c'est un changement de sens du soin, c'est introduire dans le soin l'euthanasie, alors que c'est contraire à toutes nos valeurs et à tous nos fondements de travail, au serment d'Hippocrate, chez les soignants également. Dans le soin palliatif, on met beaucoup en avance les soins palliatifs, mais la philosophie des soins palliatifs, dans les premières lignes, c'est écrit noir sur blanc. Par définition, on ne fait pas appel à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc pour nous, ça change profondément les choses, profondément.
Alors, il y a des conditions hein, pour accéder à ce droit à mourir. Elles ne suffisent pas, ces conditions, ou elles ne vous rassurent pas?
Non, bien entendu, il suffit d'être factuel et de regarder l'histoire. Les quelques pays, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que quelques pays hein, dans le monde hein, qui ont légalisé l'euthanasie, et notamment prenons en exemple la Belgique, tous ces garde-fous étaient initialement tracés comme en France actuellement, il y a 10-15 ans, et puis on voit que petit à petit ils sont reniés, puisque maintenant en Belgique, on peut euthanasier des mineurs, on peut euthanasier des personnes qui ne sont pas en phase terminale d'une certaine maladie. Donc, et d'ailleurs, de toute façon, on voit bien en France des discours, pas forcément ceux qui proposent la loi, mais il y a des discours qui vont dans ce sens pour aller beaucoup plus loin. Donc, il ne faut pas se leurrer, hein, dans les années qui viennent, la tendance sera à aller beaucoup plus loin et à faire sauter les garde-fous petit à petit.
Ça veut dire, très concrètement, au quotidien, pour vous, soignants dans les hôpitaux, pour vous qui accompagnez ces personnes qui sont en fin de vie, encore peut-être faudrait-il rappeler ce qu'est une personne en fin de vie, à partir de quand on peut considérer que la personne est en fin de vie, mais pour vous, soignants, ça veut dire concrètement quel changement dans la pratique de vos soins?
Ce que vous venez de dire, il faudrait rappeler ce qu'est une fin de vie, mais c'est très compliqué. Justement, le problème, c'est que c'est très compliqué à définir. C'est comme le sentiment d'indignité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la dignité? Nous, ça va changer que jusqu'à présent, nous accompagnons les personnes, quelles qu'elles soient, nous respecterons leur dignité, qui est au fond d'elle-même, quelle que soit notre religion, nos opinions politiques et autres. Et là, il va y avoir un autre paradigme, d'autres possibilités qui vont changer complètement, puisque actuellement, nous essayons le plus possible de calmer la souffrance, de rendre les gens les moins inconfortables.
Donc ça, c'est le rôle des soins palliatifs.
Oui, mais ça, c'est les soins palliatifs, ce n'est pas seulement dans une unité de soins palliatifs. La phase palliative, elles peuvent être traitées dans beaucoup de services.
Et y compris à domicile.
Voilà. Et les services, les soins à domicile et autres qui travaillent, qui essayent régulièrement et progressivement de s'améliorer dans cet accompagnement, donc vont avoir une autre possibilité qui va profondément changer leur valeur et leur être, en fait, tout en sachant que fort probablement, dans beaucoup de services, les soignants vont déposer leur clause de conscience. Et ça va créer probablement des quiproquos, des difficultés peut-être relationnelles entre soignants, entre médecins. Voilà, moi je connais un service très proche de moi où on accompagne des gens en phase terminale et je sais que 100% des médecins ne vont pas vouloir faire de l'euthanasie.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, parce que concrètement, si un patient réclame ce droit à l'aide à mourir et que les soignants autour de lui refusent de l'aider dans ce sens-là, d'aller dans son sens, qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, il faudra faire appel à un autre médecin, à quelqu'un d'extérieur au service. Après, il va y avoir toute une organisation à mettre en place parce que où va se faire cet acte, dans quelles conditions et par qui, hein, puisque je sais que la loi a oublié les pharmaciens, on n'a pas voulu mettre les pharmaciens qui eux aussi voulaient avoir le droit de déposer leur clause de conscience, mais il va y avoir une prescription, une hospitalisation, une délivrance de médicaments, un suicide assisté proposé en premier lieu pour les gens très conscients et qui peuvent se suicider,
donc
en fait.
Donc pas de clause de conscience prévue pour les pharmaciens qui auront à délivrer le médicament qui fera mourir.
Qui auront à stocker,
ouais,
à recevoir la prescription et à transmettre les médicaments pour abréger la vie des personnes.
Pardon, docteur Philippe Deguiral, mais on a du mal à comprendre une chose, c'est que vous êtes soignant. Vous, à travers ce que vous nous dites, on comprend que vous êtes entouré de soignants pour qui cette loi n'est pas une évidence, en tous les cas, n'est pas forcément une bonne chose. Mais à quel moment les soignants ont pu dire ça, ont pu être entendus? Enfin, on a du mal à comprendre comment une loi qui implique en première ligne les soignants puisse passer contre la vie et contre l'expérience, l'expertise des soignants précisément.
Oui, alors c'est très important ce que vous venez de dire parce que, bien entendu, hein, il faut supprimer le grand pouvoir médical omnipotent et ainsi de suite. Et en même temps, c'est à lui qu'on donne la responsabilité ultime de vie ou de mort. Donc c'est très important. Maintenant, je sais, après avoir rencontré beaucoup de gens du grand public, de citoyens autour de moi, c'est vrai qu'ils ne s'étaient pas forcément posé la question de savoir qui allait faire ça et dans quelles conditions. Pour les législateurs, pour certains, ça peut paraître une grande évidence, mais non, ce n'est pas tout à fait évident.
Vous voulez dire que pour le législateur, eh bien, c'était évident que les soignants allaient pouvoir poser cet acte sans se poser de questions?
Oui, j'ai entendu dernièrement quelqu'un, une des personnes soutenant ce projet de loi et même peut-être à l'Assemblée nationale, dire que ça allait permettre même d'améliorer les soins palliatifs et que l'euthanasie ou le suicide assisté rentrait dans le cadre de soins palliatifs, serait un soin. Mais il faut savoir que de nombreuses associations de patients, nombreuses associations de soignants, de médecins, des organismes ont même signé une charte, un texte il y a, je crois, 2 ans, témoignant, en tout cas exprimant le fait que pour eux, ce n'était absolument pas un soin. Voilà. Donc, et même si on minimise les choses en parlant de suicide assisté, tout en ne donnant pas ce terme, hein, Albert Camus disait que ne pas nommer les choses participait au malheur du monde, mais vous remarquerez que le mot euthanasie et suicide assisté ne sont pas nommés dans cette loi, alors que c'est ça, c'est la définition, il faut définir les choses.
D'ailleurs, on parle d'un droit, là, on parle, c'est même le fait d'employer le terme droit dit quelque chose de l'ambition qui est derrière.
Oui. Mais là, c'est toute une discussion, il faudrait passer des heures sur le droit, la liberté. Voilà, regardez, on parle de la liberté, chacun, il y a la liberté de se suicider, hein, on a, dans la société, et même si on met en place on met en place depuis quelques années, on entend beaucoup parler un plan contre le suicide. Donc vous imaginez un patient qui, et ce qui est tout à fait normal, se dirige aux urgences aujourd'hui, se présente où il a été découvert à la suite d'un suicide ou une tentative de suicide, on va tout faire pour le ranimer. Et là, on met en place dans la loi eh ben, la création d'un suicide.
Donc vous pointez du doigt une incohérence, quoi.
À mon avis, oui.
Est-ce que selon vous, si on avait pu ou su ou voulu déployer les soins palliatifs tels qu'ils devraient l'être, finalement ce texte, ce volet-là sur le droit à l'aide à mourir, il n'aurait pas vu le jour si les soins palliatifs avaient été déployés comme il faut?
Ce que je sais, ce que je peux témoigner, c'est que dans des services, dans des organisations d'hospitalisation à domicile, où on va dire qu'on fait au mieux, je dis bien au mieux, hein, au mieux, pour l'accompagnement des personnes en fin de vie, les demandes d'euthanasie sont exceptionnelles, voire inexistantes.
Donc, faire au mieux, ça veut dire soulager la souffrance physique, psychologique, voire spirituelle du malade.
Tout à fait. L'accompagnement complet, avec présence de la famille, et puis traitement des symptômes, et notamment de la douleur. Je ne nie pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fins de vie qui ne se passent pas correctement, entre guillemets, excusez-moi du mot correctement, où les gens souffrent. Et probablement que les témoignages sont tout à fait vrais, même si parfois ils sont fantasmés au niveau de certains législateurs, mais moi-même, j'ai été le témoin d'accompagnement qui ne s'était pas passé dans de bonnes conditions, et je comprends très bien que les personnes autour de moi, autour de cette personne...
Oui, voilà, la personne qu'ils aiment souffrir de manière atroce,
voilà. C'était la meilleure solution, c'était l'euthanasie. Mais est-ce que vous pensez qu'en légalisant l'euthanasie, les services et les organisations aujourd'hui qui ne sont pas, excusez-moi encore, entre guillemets, au point, vont s'améliorer? Je n'en suis pas certain. Vraiment pas certain.
Vous vous sentez, vous, docteur Philippe Téguiral, dépourvu de moyens pour soulager complètement la douleur des personnes qui souffrent?
Moi, j'ai un certain âge, j'ai plus de 60 ans. Je suis oncologue médical, je ne me mets pas en avant. Hein. J'ai bien le souvenir de difficultés pour les fins de vie de certains patients. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens, de connaissances et d'organisation pour que ça se passe au mieux par rapport à il y a 20-30 ans. Ça, c'est une réalité. Mais on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire et je pense que c'était la priorité. Et quand on regarde les sommes allouées qui sont prévues dans le premier volet de la loi, vous remarquerez que c'est pour 10 ans. Hein? Donc, vous divisez par 10 et vous divisez par le nombre de départements. Et vous allez voir les sommes allouées dans les services, d'autant plus qu'aujourd'hui, il manque des médecins dans tous les services et des soignants partout.
On a donc encore une grande marge de progrès à faire sur ces soins palliatifs. On arrive au terme de cet entretien, hein, docteur Philippe Déguiral. J'ai quand même une dernière question. Ceux qui défendent ce texte sur le droit à l'aide à mourir parlent de dignité, de fraternité. Ma dernière question, c'est pour vous, c'est quoi? Pour vous, soignants, c'est quoi la dignité? La fraternité, ça veut dire quoi?
La fraternité, c'est de reconnaître la personne qui est en face de nous comme très très importante, quel que soit son poids, quelle que soit sa souffrance, quel que soit son état général. La dignité, pour beaucoup de personnes, et c'est pas seulement un sentiment religieux, elle est inhérente à la personne. Cette dignité, elle disparaît une fois que la personne est décédée. Le sentiment d'indignité, c'est autre chose. Je pense que les personnes qui sont favorables à cette loi pensent plus au sentiment d'indignité qu'à la dignité elle-même, mais c'est tout un débat de société. Et par rapport à la fraternité, je pense aussi à la vulnérabilité. Et on sent bien que cela va continuer à créer des inégalités dans la prise en charge, dans les soins, et que les personnes les plus vulnérables, les plus isolées, qui se sentent isolées, qui se sentent inutiles, bien pour ces personnes-là, on est quasiment certain qu'il y aura beaucoup plus de demandes d'euthanasie avec des sentiments et des causes parfois indirectes et parfois pas très sympathiques.
Merci, merci pour vos réponses, docteur Philippe Deguiral. Je rappelle que vous êtes médecin oncologue à l'hôpital de Tarbes. Merci d'avoir été avec nous
Merci
aujourd'hui.
beaucoup. Merci.